Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans rendez-vous, tous les jours de 15h à 16h. Alors aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter nos meilleurs moments, ceux que nous avons choisis pour vous, auditeurs d'Europe 1, pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Alors cet après-midi, on va commencer par s'intéresser aux petits et gros bobos du pénis. Et oui, il peut lui en arriver des choses, accidents de braguette, problèmes urinaires ou autres réjouissances. Heureusement, ça se soigne tout ça, on va vous détailler comment. Mais pour démarrer cette émission, on va parler de poids, de lignes, de kilos en trop. Mon petit doigt me dit que le 1er janvier, ça peut intéresser du monde. Alors pas de régime miracle aujourd'hui, mais un secret quand même, écoutez bien. Pour bien maigrir, il faut déjà bien dormir. C'est pas moi qui le dis, c'était le docteur Laurence Plumet que nous avions reçu sur ce plateau.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes médecin nutritionniste et l'auteur du livre « Le monde merveilleux du gras » aux éditions Erol, c'est bien ça ?
Oui, tout sur ces rondeurs qui nous habitent.
Très important.
Pour qu'on comprenne bien que c'est le gras du ventre.
Tout à fait. Vous étiez venu nous en parler il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, notre thème du jour, c'est bien dormir pour bien maigrir. Est-ce que vous dites d'abord, c'est que les Français en général ont un problème finalement avec les deux ? Le poids et le sommeil.
Ah mais tout à fait, et ça s'est vu particulièrement avec cette crise sanitaire dans laquelle nous vivons, puisque en fait, les gens ont énormément de troubles du sommeil. On estime que ça concerne à peu près 30 à 40% de la population, vous vous rendez compte ? Ouais. Ce sont des gens qui sont insatisfaits de leur sommeil, 20% souffrent d'insomnie, et comme par hasard, une personne sur deux a des problèmes de poids. Donc les deux sont liés, et on le sait, sur le plan physiologique et physiopathologique, il y a un lien entre les deux.
Jimmy ?
Et est-ce que justement la crise du Covid a entraîné une aggravation dans les troubles du sommeil, donc peut-être dans les troubles alimentaires que vous pouvez constater ?
Oui, tout à fait. On a vu qu'en moyenne, les gens avaient pris entre 2,5 kg et 4 kg pendant la période de confinement. Et on a vu aussi grimper les problèmes d'insomnie et de réveil précoce, voire même de micro-réveil pendant la nuit, parce que c'est assez anxiogène, en fait, comme situation.
Est-ce qu'on sait si l'été a peut-être un peu arrangé les choses ou pas ? Au contraire, par niveau poids d'ailleurs, en été, il se passe quoi ? En gros, si on maigrit à la rentrée, au moment où on se parle, est-ce que le poids et le sommeil, on en est où du bilan ?
Alors, en été, finalement, l'évolution du poids est très variable. Il y a des gens qui maigrissent, il y a des gens qui grossissent. Alors, les gens qui maigrissent sont des gens qui ont fait plus de sport et qui ont mangé davantage de salades composées. Les gens qui ont grossi sont des gens qui ont souvent été à la plage, qui n'ont pas fait grand-chose et qui sont gavés de chouchou, de chichi,
ça, c'est vous, Jimmy,
de soda et de glace.
Chouchou,
chichi, ça fait Jimmy randouillé à la rentrée.
Voilà. Et puis, il faut avouer qu'il va y avoir un sacré décalage au niveau de la reprise du sommeil, parce que très souvent, pendant les vacances, on se couche très tard, on se lève très tard aussi. Et ce n'est pas tout à fait le même programme qu'il faut suivre quand on reprend le travail à la rentrée.
Jimmy ?
Du coup, les effets du sommeil sur la prise du poids, ça concerne les adultes, mais est-ce que les enfants peuvent aussi être concernés ? Un enfant qui dort mal, est-ce que c'est un enfant qui peut grossir ?
Ah, tout à fait. Tout à fait, parce que le cerveau fonctionne de la même façon. En fait, quand il y a un déficit de sommeil, on s'aperçoit qu'il y a des modifications hormonales qui non seulement entraînent dans le sang une élévation du taux de cortisol, aussi bien chez les enfants que les adolescents et les adultes, et on sait très bien que quand il y a trop de cortisol dans le sang, c'est une molécule qui stimule la fabrication de gras au niveau de l'abdomen. Donc, c'est de la mauvaise graisse. C'est comme si, autrement dit, quelqu'un qui ne dort pas assez, ce qu'on voit très bien avec les enfants qui se couchent trop tard, ou les adolescents, c'est caricatural avec les adolescents, ou les adultes qu'on voit se coucher de plus en plus tard. Moi, je suis effarée. Mmh. Il y a quelques temps, quand les gens vous disaient « je me couche tard », c'était minuit.
Voilà, maintenant c'est 2h du matin avec
c'est deux
les vidéos en streaming et tout.
Mais
ça.
Exactement, ouais. Avec un lever à 7h du matin quand il faut aller bosser, ça fait donc que 5 heures de sommeil.
Ouais,
donc,
possible.
Il y a un déficit d'une à deux heures. Donc, c'est comme si les gens prenaient leur comprimé de corticoïdes tous les matins, parce qu'en fait, ils augmentent la sécrétion de cortisol interne. Et le manque de sommeil change aussi les comportements alimentaires. Mmh. On s'est aperçu que ça donnait beaucoup plus envie de manger des féculents et des produits sucrés.
On va y venir sur ces détails, on va dire, de l'impact du mauvais sommeil sur le poids. Mais qui c'est qui grossit le plus ? Ce sont les couches tard ou les lèvent tôt ? Ceux qui commencent très tôt, qui se lèvent à 5 heures, ou ceux qui se couchent à 2 heures du matin ?
Alors, en dehors des petits dormeurs, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de peu de sommeil physiologiquement, ou des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil. La différence, par exemple, entre un sommeil trop court, normal ou anormal, c'est le tonus qu'on a au réveil. Quand on se lève, quand on a dormi que 4 ou 5 heures et qu'on se lève en pleine forme, c'est qu'on est constitutionnellement, c'est pas facile à dire, un petit dormeur. En revanche, beaucoup de gens quand même sont confrontés à une insuffisance de sommeil. Alors, pour répondre à votre question, quel est le plus gênant, se coucher trop tard ou se lever très tôt ? Je dirais les deux, mon général. Parce qu'en fait, quand on regarde le sommeil dans la nuit, on s'aperçoit qu'il a des rôles différents. Le sommeil du début de nuit, celui qui débute à partir de 22h jusqu'à, disons, 1 ou 2 heures du matin, c'est un sommeil qui récupère de la fatigue physique. C'est un sommeil qui est très riche en rythme lent, superficiel, modéré et profond, et pauvre en sommeil paradoxal. Et le sommeil de fin de nuit, celui qui est entre 3 heures du matin et 6-7 heures du matin, est un sommeil qui est très riche en sommeil paradoxal. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt un sommeil récupérateur des fonctions cognitives, donc des capacités de mémorisation, de concentration, de vigilance. Donc si on se couche très tard et qu'on rate la première partie du sommeil, on se réveille chroniquement fatigué, surtout de la fatigue physique, frilosité, on n'est pas bien et on mange de trop. Et si on se lève très très tôt, comme les chroniqueurs du matin qui prennent leur poste ici à 6 heures et qui se lèvent à 3-4 heures du matin, ou tous les gens qui travaillent en horaire décalé, eh bien ce sont des gens qui sont privés de sommeil paradoxal. Voilà. Et donc, eux souffrent de problèmes de mémoire et de capacité de concentration.
Jimmy ?
Donc, vous avez dit qu'on sécrète plus de cortisol qui va créer du gras au niveau du ventre. Mais aussi, ça peut avoir un impact sur notre façon de nous alimenter. On a plus faim lorsqu'on dort moins bien.
Tout à fait. Je crois qu'on l'a tous expérimenté, parce que ça nous est tous arrivé, heureusement quand même, hein, d'avoir des nuits blanches ou dormir un peu moins longtemps. Eh bien, effectivement, on s'aperçoit que les jours où on n'a pas assez bien dormi, on est fatigué et on a vraiment envie de manger des féculents, du pain, des produits sucrés. En fait, ça s'explique parce que, bon, en dehors du profil hormonal qui veut ça, parce que le cortisol augmente l'envie de manger sucré, les gens qui sont sous corticothérapie le disent clairement. Depuis que je prends des corticoïdes, j'ai vraiment des pulsions au goût sucré. J'ai vraiment envie de manger des biscuits, du gâteau et du chocolat, quoi. Indépendamment de ça, j'ai perdu le fil de mon idée. Moi, je suis partie dans
donc
mon chocolat.
On mange plus finalement quand on manque de sommeil.
Tout à fait. Et donc, on mange plus de ces produits sucrés. Et alors oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que cette fatigue, le corps la comprend inconsciemment comme une hypoglycémie. Vous savez, les symptômes sont un peu les mêmes.
Oui.
La personne ne se sent pas bien, elle est fatiguée. Or, l'hypoglycémie donne les mêmes symptômes et donc la personne a envie de se jeter vers les mêmes produits pour remonter sa glycémie.
Docteur Plumet, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste et l'auteur du livre Le Monde Merveilleux du Gras aux éditions Erol. Et vous complétez le titre du livre, c'est
Tout sur ces rondeurs qui nous habitent.
Parfait. Alors docteur Plumet, avec vous aujourd'hui, on tente de comprendre pourquoi mal dormir fait grossir. D'abord, petit focus sur ceux qui se couchent très tard. Il faut savoir, donc vous le disiez un petit peu tout à l'heure, mais que ça met le cerveau en colère en quelque sorte et qu'il se met à sécréter du cortisol en masse. Et là, alors là, bonjour les dégâts, qu'est-ce qui se passe une fois que ce cortisol, il est en excès ?
Alors le cortisol, c'est une hormone qui a de nombreux effets. Entre autres, le cortisol a la capacité de stimuler la division des cellules graisseuses de l'abdomen profond, c'est-à-dire autour des viscères, et donc de favoriser ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la synthèse de mauvaises graisses profondes. Je ne parle pas du petit bourrelet. Hein.
Oui.
Le petit bourrelet, il est sympa, il est superficiel, il fait de monde à personne.
Mais c'est le gros bidon, là.
Son seul défaut, c'est d'être visible. Et justement, cette graisse profonde qui est invisible est la plus dangereuse, parce que c'est elle qui, à la longue, en se développant et en donnant ses ventres durs et proéminents,
surtout chez les hommes en général,
qu'on voit plutôt effectivement chez les hommes que chez les femmes sont plutôt les spécialistes du bourrelet et des cuisses un petit peu cellulitiques. Alors que l'homme est plutôt, sauf Jimmy, évidemment.
Oh là,
vous avez un compliment.
C'est vite dit. Vous êtes très loin. Alors, l'ophtalmo, parce qu'à mon avis, son t-shirt.
Non, mais c'est vrai que l'obésité est plutôt dite de type androïde chez l'homme et plutôt gynoïde chez la femme. Donc, quand on sécrète trop de cortisol, on favorise la synthèse de cette mauvaise graisse profonde et donc on prend du ventre. C'est un ventre dur et c'est donc ceci qui va faire émerger par la suite l'apparition du diabète.
Attention à votre cortisol, Jimmy, attention, allez-y.
Vous avez raison. Mais du coup, si on dort mal, on va avoir des comportements alimentaires à type de pulsion, on va vouloir plus manger. Mais pourquoi est-ce qu'on va être attiré par du gras ou du sucré? On pourrait se contenter de manger des carottes ou des légumes, non? Pourquoi est-ce qu'on a une appétence particulière pour ce qui est plutôt gras?
Parce que là, c'est tout le mystère du cerveau. On s'aperçoit que c'est le cerveau qui vraiment dirige nos comportements. On a l'impression qu'on dirige nous-mêmes nos propres choix alimentaires. Et en fait, nous avons ce qu'on appelle toujours un inconscient métabolique, c'est-à-dire que notre cerveau dirige pour une grande partie nos choix alimentaires. Et là, en l'occurrence, sans qu'on le veuille, on est poussé vers les produits sucrés quand on est en manque de sommeil. Ce qui rend la chose extrêmement difficile quand vous voulez maigrir. Parce que quand vous allez voir un spécialiste qui vous dit « Ah, il va falloir arrêter les produits sucrés » et que vous ne dormez pas assez mais qu'il ne s'en est pas rendu compte ou qu'il n'a pas été capable de prendre en charge problème.
Je vous sens éclairé, Jimmy, là vous comprenez tout.
Il y a votre inconscient qui vous pousse à faire le contraire de ce qu'on vous demande de faire. Et c'est pour ça que ces gens-là n'arriveront jamais à maigrir.
Ouais, ce qui veut donc dire que si jamais on a du mal à maigrir avec un régime qu'on pense bien mener, bah c'est peut-être qu'on a un problème de sommeil. Donc les gens qui dorment mal ont de moins bons résultats lorsqu'ils tentent de maigrir que les autres.
Ah, tout à fait. Et ça a été montré par des études. Les gens qui... Il y a eu des magnifiques études qui ont été faites avec des volontaires qu'on a soumis à un régime, au même régime hypocalorique. Vous avez le groupe qui dort bien et le groupe qui dort pas bien. Seulement 4 heures par nuit. Bon. Eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines de régime, le premier a perdu à peu près 3 kilos, ce qui est quand même un régime assez hypocalorique. Bon. Et dans des bonnes conditions, activité physique et bon sommeil, 3 kilos dont... 2,5 kg de masse grasse et seulement 500 g de muscles perdus dans la bataille. Bon, ce qui est déjà pas mal. Ceux qui n'ont pas beaucoup dormi, seulement 4 heures par nuit, ont perdu le même nombre de kilos, mais tenez-vous bien, sur les 3 kilos perdus, c'était 2,5 kg de masse musculaire et seulement 500 g de masse grasse.
Ah, ça change tout.
C'est très intéressant.
Voilà, ça change tout.
Et vous dites que donc ce sommeil qui nous cause donc ce gros bidon dont vous venez de parler, le gros bidon dur avec de la graisse profonde,
oui,
il peut faire aussi le lit du diabète. Expliquez-nous.
Oui, parce que le cortisol a également, comme autre effet secondaire, d'augmenter la glycémie. Vous avez deux hormones qui sont antagonistes. Vous avez l'insuline qui favorise le passage du glucose dans les cellules et qui baisse la glycémie. Et puis vous avez le cortisol qui fait exactement l'effet inverse. Donc quand vous sécrétez trop de cortisol parce que, entre autres, vous ne dormez pas assez, vous mettez en situation de faire monter votre glycémie de façon chronique. Je ne parle pas d'un manque de sommeil sur quelques jours, voilà. Ça ne vous rend pas diabétique comme ça en 3 jours. Mais je parle d'un manque de sommeil chronique chez quelqu'un qui a pris de mauvaises habitudes. Ou alors, pensons aussi à ces gens qui travaillent de nuit
pendant
ou en
années,
horaire décalé,
ouais,
et qui n'ont malheureusement pas le choix et dont on sait très bien dans cette population-là qu'ils sont particulièrement exposés au diabète.
Docteur Plumet, à présent, on va écouter donc vos meilleurs conseils. Vous allez nous donner les secrets de nuit de meilleure qualité pour mieux gérer son poids, bien sûr. C'est notre thème du jour. Alors, ça commence par le dîner, je crois. Il faut qu'il soit léger. Pourquoi et de quoi on le compose, précisément?
Oui, et à quelle heure on le prend?
Ah, allez-y.
Parce que si on le prend à 23h, on ne sera jamais au lit à 23h.
Eh oui, bien sûr. Alors, dites-nous.
Donc, il faudrait idéalement le prendre vers 20h, 20h30, c'est parfait. Hein, et donc, on le prend léger, ni trop lourd. Parce que quand un dîner est trop lourd, d'abord on prend du poids, puisque la nuit on bouge très peu, on brûle très peu de calories.
Bien sûr.
Donc, normalement, un dîner ne devrait pas dépasser 600, 800 calories. Hein, et souvent, les gens sont au double dès lors qu'ils prennent un plat avec des sauces, du pain, du fromage, un petit verre de rouge. Et hop, on est sur facilement le double. Et comme on dépense très peu de calories la nuit, les gens grossissent la nuit.
Il y a des dîners corrects pour bien dormir, c'est
oui,
quoi?
Oui, alors le dîner, alors d'abord des légumes, beaucoup plus de légumes que de féculents. Donc on prend de la viande ou du poisson ou une petite omelette, accompagnée dans son assiette de mi-légumes, mi-féculents, en accordant plutôt la priorité aux légumes. Les soupes, les gens en mangent beaucoup, donc une bonne soupe bien épaisse, avec une tranche de jambon ou une petite omelette à côté, c'est génial. Un petit peu de pain, pourquoi pas. On fait gaffe avec le pain fromage, parce que pour ne pas s'emballer sur le fromage.
C'est bon pourtant.
Oui, mais vaut mieux réserver le fromage à midi.
Ah,
honnêtement,
d'accord.
Plutôt que
moi,
le soir.
Moi, je fais les deux, mais c'est pas bon non plus. Bon.
Ou alors une part, vous voyez, mais ouais, pas deux, mais pas trois. Quoi.
D'accord.
Et ensuite, après, pour terminer sur une petite note sucrée, parce que c'est un peu le doudou de tout le monde, hein, y compris des adultes, on termine sur un fruit ayant un bon goût sucré plutôt que sur une crème dessert au chocolat, par exemple. Bon. Et on évite l'alcool absolument, puisque l'alcool est un excitant, sans parler du café et du thé, bien évidemment.
Jimmy.
Est-ce que vous avez des aliments ou des boissons qui pourraient peut-être nous aider à mieux dormir le soir?
Oui, alors, côté boisson, il y a la fameuse tisane à la camomille.
Bien sûr.
Qui a des vertus sédatives. Alors attention toutefois au bol de tisane que l'on peut prendre, parce que si on commence à beaucoup boire avant d'aller se coucher, on va inévitablement être réveillé au moins 2 ou 3 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Donc il vaut mieux boire, au moins terminer de boire au moins 2 heures avant d'aller se coucher, et en règle générale, prendre son dîner de toute façon 2 heures avant d'aller se coucher. Parce que là, l'estomac est à moitié vide, vous voyez, hein, et donc c'est suffisant pour bien dormir. Alors que si on le prend trop très tard, notre dîner, vers 23h à peu près, et qu'on se couche tout de suite, on est en pleine digestion et on remarque que le sommeil n'est pas aussi bon. Il est superficiel, on est souvent réveillé, on n'est pas bien. Donc, dîner léger, dont on a vu la composition, plutôt vers 20h que vers 22h, de façon à se coucher vers 22h30, 23h. Mmh. Il faut vraiment prendre soin de son sommeil. Hein. Il ne faut pas le massacrer. Il ne faut pas se dire après minuit, je récupérerai le week-end. Tout sommeil perdu ne se rattrape jamais.
Le petit déjeuner, même si on parle de sommeil aujourd'hui, il est important aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas faim du tout le matin, qui ne mangent pas, mais c'est souvent à cause de ce dîner, justement.
Mais tout à fait. Hein, en général, les gens qui n'ont pas faim le matin n'ont pas faim soit parce qu'ils se réveillent très tôt. Et à 4 ou 5 heures du matin, on n'a pas faim. C'est normal. La faim arrive vers vers 7-8 heures du matin. Bon. Mais c'est aussi le cas, et très souvent c'est cette situation qui se passe, des gens qui dînent trop et trop tard. Comme la digestion est beaucoup plus lente et difficile la nuit, moralité, le matin, quand ils se lèvent à 6h30-7h, ils n'ont toujours pas fini de digérer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas faim. Et ce n'est pas la faute du petit déjeuner ou du fait qu'il ne soit pas utile, au contraire, mais il faut revoir le dîner
l'assiette du dîner,
trop tardif ou trop copieux.
Jimmy.
Parfois, on est un peu dans une situation de rush et on peut avoir tendance à vouloir sauter le déjeuner. Est-ce que c'est une mauvaise idée ?
C'est une très mauvaise idée, parce que le déjeuner est le repas plein principal, celui qui se trouve au milieu de la journée. Donc, on a faim, en général, il s'est écoulé toute la matinée.
Physiologiquement, c'est le plus important.
Ah, c'est le plus important, il doit couvrir, idéalement, au moins 40% des besoins nutritionnels de la journée.
Donc, votre sandwich, Jimmy, autant, là, ça ne suffit pas, à mon avis.
Non, ce n'est pas suffisant, parce que... Ouais. Que va-t-il se passer ? Si vous ne prenez qu'un sandwich, bien sûr, vous serez calé sur le moment.
Sandwich au thon pour Jimmy, je peux le dire, je le vois souvent avec le thon.
Thon mayonnaise, hein, bien sûr, bien sûr. On va tout savoir. Mais à partir de 16h, 17h, la faim va revenir puisque tout estomac vide appelle à être rempli. Et donc, il va déclencher la sensation de faim. Donc, vers 16h, 17h, ça commence à être la grosse faim, surtout chez une personne qui n'a pas pris de petit déjeuner, qui a mal déjeuné à midi, qui commence à avoir très faim l'après-midi, on commence à aller se précipiter sur le distributeur pour prendre une barre chocolatée, etc. Ça commence mal. Et qui arrive affamée chez elle le soir. On commence par prendre, en attendant le dîner, un peu de pain, un peu de charcuterie,
un
peu
de fromage encore.
Voilà. Et après le dîner, alors là, c'est la cata, c'est le bœuf bourguignon puré, pain fromage, verre de vin rouge et dannette au chocolat. Pardon.
C'est pas grave.
Crème dessert au chocolat. Voilà. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. Donc il faut vraiment apporter les calories le matin. Bon petit déjeuner, bon déjeuner, petite collation dans la matinée, un fruit par exemple ou deux, et dîner léger tel que nous venons de le voir.
Pour en savoir plus, je conseille donc d'aller voir votre livre, hein, Le Monde Merveilleux du Gras. On va quand même dire un mot pour terminer sur un nouveau métier en lien avec tout ce dont on vient de parler aujourd'hui. Vous ouvrez dans votre école de nutrition un diplôme de napsothérapeute. De quoi s'agit-il ?
Alors, vous savez qu'en France, on n'est pas calé en prévention. On fait de la très mauvaise prévention, on n'en fait même pas du tout. Or, on sait que 40% des cancers pourraient être évités avec une bonne alimentation, que 80% de l'obésité, du diabète, etc. devraient être prévenus par une bonne alimentation. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce nouveau métier qui s'inscrit dans la prévention et donc dans le conseil en nutrition pour le N de napsothérapeute, en activité physique pour le AP et en sommeil pour le SO de napsothérapeute. Autrement dit, le napsothérapeute va être un acteur de prévention polyvalent, c'est-à-dire qu'il va apprendre avec cette formation qui dure un an et 500 heures de formation, à savoir auditer, identifier les erreurs de comportement des gens dans le domaine de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil pour les aider à changer leur comportement et éviter de tomber malade.
Une prise en charge globale grâce à ce nouveau métier. Merci beaucoup docteur Laurence Plumet d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Marc Galliano. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous étiez déjà venue à la fin de la saison dernière pour nous parler de votre livre donc, qui s'appelle « Mon sexe et moi » chez Marabout. Comme on n'avait parlé même pas de la moitié des thèmes très intéressants dont il est question dans ce bouquin, eh bien on vous a réinvité en ce début de saison. Et donc aujourd'hui, on va parler du pénis et des petits et gros tracas qui peuvent lui arriver. Et on va commencer par ça, par les petits soucis mécaniques, je dirais. Je sens que certains hommes vont peut-être déjà retenir leur respiration. Je sens Jimmy qui se crispe un petit peu. C'est important de savoir, cela dit, pour savoir réagir le jour J. Alors, on va commencer par le décalotage trop long, ce qu'on appelle aussi le paraphimosis. De quoi parle-t-on ? Est-ce que c'est fréquent comme accident ?
Alors, c'est fréquent. Non. D'abord, il faut premièrement avoir un prépuce. Donc, ça concerne que les hommes qui ont encore un prépuce. Alors, c'est surtout, on va dire, les deux grandes périodes de la vie, quand on est enfant et quand on est plus âgé. C'est lorsqu'on déroule son prépuce, mais on a un prépuce qui est déjà un petit peu serré. À ce moment-là, il se crée un œdème, c'est-à-dire que la muqueuse sous la peau du prépuce va se mettre à gonfler. Et dans ces cas-là, on ne peut plus recaloter. Si on reste trop longtemps décaloté...
C'est gonflé au bout et la peau ne remonte plus, quoi, c'est ça ?
Exactement. Ouais. Ensuite, ça fait un œdème, et puis l'œdème, ça peut faire une nécrose, ça peut empêcher de faire pipi. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas se stresser.
Si ça arrive à son enfant...
Il faut simplement le calmer, utiliser, premièrement, mettre un peu de froid, utiliser un lubrifiant. Et ensuite, il y a une manœuvre, c'est un peu comme on enfile une chaussette.
Ah oui,
voilà.
On imagine.
Voilà, on serre avec les doigts le prépuce, la base. on met les pouces sur le gland et on essaie de remonter la chaussette.
Je préfère amener mon fils chez le médecin, je crois, le jour où ça arrive.
Oui, mais souvent, ça peut arriver la nuit, il vaut mieux... Ouais. Il faut se décontracter. Bien souvent, on peut régler son problème tout seul. Il ne faut pas non plus attendre 2, 3, 4 heures. Mmh. Dans ces cas-là, après, il faut passer aux urgences.
Jimmy.
Un accident qui fait peur à tous les hommes, c'est la rupture du frein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Alors, on comprend qu'il y a un truc qui saigne et que ça fait mal et que ce n'est pas très agréable. Mais comment on s'en rend compte?
Alors,
je crois que ça saigne beaucoup.
Ça saigne, alors en effet. Le frein, c'est le petit fil qui est entre la face ventrale du gland et la peau, qui permet au prépuce de revenir sur le gland. Donc ce fil, il peut être plus ou moins long. Lorsqu'il est de naissance court, et ben, à force de tirer dessus par la masturbation et les rapports sexuels, il peut se fissurer. Quand c'est ça, ça pique. Ça gratte, on peut utiliser des crèmes cicatrisantes et
ça passe.
Parce
que là, c'est pas trop grave. Ouais.
Ensuite, dans ce petit fil, il passe un nerf, une artère, une veine. Lorsqu'on coupe la veine, ça va saigner, mais comme un saignement de nez, il ne faut pas s'alerter. On prend un Kleenex ou du coton,
on compresse
5 minutes et ça s'arrête. Quand c'est l'artère, bah c'est comme dans un petit film d'horreur.
Dans l'ordre, il y a d'abord le vaisseau, puis après l'artère. Donc
exactement.
Plus on va profond, plus...
Quand c'est l'artère, il faut être suturé en urgence.
Ouais, là, on va à l'hôpital.
Là, il vaut mieux aller à l'hôpital.
Attention, quand on a le zizi avec du sang,
en général... Je pense que même avec une goutte de sang, la plupart des hommes finissent à l'hôpital. Hein,
non, ça s'arrête. Non, j'ai pu voir en visite un jeune homme, il n'y a pas très longtemps, qui, après un rapport sexuel, avait retrouvé plein de sang dans le préservatif, mais ça s'est arrêté tout seul.
Exactement.
Mais après, il faut consulter, même si ça s'arrête ensuite.
Alors oui, parce qu'en fait, il faut des fois réparer, on peut réparer, ou bien souvent, on fait une placie du frein pour éviter qu'on soit embêté à nouveau.
Alors, plus étonnant et moins connu, moi j'ai découvert ça dans votre livre, hein, il est possible de souffrir d'une élongation, d'une sorte de tendinite de la verge. Alors, ça veut dire quoi? Ça peut même aller jusqu'à la rupture des ligaments. Expliquez-nous où tout ça se trouve et comment ça marche.
Exact. Alors la verge, en fait, quand on...
Pour moi, l'élongation, la tendinite, c'était plutôt au poignet ou ailleurs.
Oui, mais il y a des tendons aussi qui suspendent la verge. Ce sont les ligaments suspenseurs de la verge. Ces fameux ligaments que certains chirurgiens plasticiens coupent pour rallonger la verge au repos uniquement. Donc, en effet, sur certaines positions, positions où la verge va être tractée très fort vers le bas, on peut avoir une élongation, donc une tendinite.
En érection plutôt.
En érection. Mais parfois, on peut aller jusqu'à la rupture des ligaments suspenseurs.
Ça doit faire extrêmement mal.
Ça fait extrêmement mal. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut les réparer? Bien souvent, ils se réparent tout seuls.
Le souci, la tendinite, repos, j'imagine.
Ben voilà, exactement. Parce que sinon, ça fait des pubalgies, donc des douleurs du pubis. Ça peut être très impactant, pénalisant pour la vie sexuelle. Parce que quand on a mal, on a du mal à avoir des érections. Mais en tout cas, ça peut arriver.
Et avec cette tendinite, quoi, c'est un mois de repos au moins
Alors, c'est un mois de repos, c'est les anti-inflammatoires. Après, ça dépend de l'importance de la tendinite.
Jimmy, ça vous fait rire, mais
non, mais un mois de repos, on dirait qu'on parle de sport, mais pourquoi pas.
C'est une activité physique comme une autre.
Hein. Oui. Ouais, très bien. Autre accident, redouté aussi des hommes, l'accident de braguette. Alors, tout le monde voit
même des petits garçons. Peur, moi, je sais aussi.
Alors, est-ce que ça arrive? Parce que, est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'on a déjà vu des gens se coincer?
Dans des films,
oui, mais est-ce que dans la vraie vie, si ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller dans l'autre sens pour ouvrir la braguette ou je sais pas.
Alors, moi j'aurais envie de découper autour.
Tout dépend de l'importance de la blessure. C'est vrai que bien souvent ça arrive chez les hommes alcoolisés. Donc quand on est alcoolisé, on a une diminution de la sensibilité, on se fait surprendre et blam, grand mouvement.
Dans c'est le prépuce qui se coince ou
exactement. Ouais. C'est exceptionnel de se retrouver avec le gland coincé dans la braguette, mais c'est souvent le prépuce. Ou la peau du scrotum, la peau des bourses.
Et comment on fait alors?
Dans ces cas-là, quand c'est une petite blessure, on serre les dents, on tire en mouvement inverse, on désinfecte.
Ça me fait mal à moi aussi.
Mais quand c'est vraiment très coincé, alors moi dans toute ma carrière, lorsque j'étais chef à la Pitié, j'ai vu un accident de braguette, on a dû découper la braguette autour du jean, ensuite on a mis le patient au bloc opératoire.
Mais quand même, ça va loin.
Oui, là c'était la moitié du prépuce qui était pris dans la braguette. Honnêtement, faire ça... Même s'il était franchement alcoolisé, on a fait ça sous anesthésie.
Ouais.
C'est Jimmy, exceptionnel.
Ça vous fait
Je suis tétanisé. Dans les autres accidents de la verge, on va parler un peu d'épilation, puisque certains s'épilent le pubis. Vous avez des petits conseils à donner? Est-ce que c'est mieux la tondeuse, la crème,
le rasoir?
Alors, vous en voyez d'ailleurs,
parce qu'avant, les hommes ne s'épilaient pas tant dans cette zone-là.
Exactement.
Aujourd'hui, c'était de plus en plus fréquent. Donc, ces accidents-là, même des infections liées à l'épilation dans la zone génitale.
Le pire, c'est le rasoir. Le rasoir, on a un petit follicule pileux un peu infecté. On se rase, on infecte toute la zone. En plus, on peut se blesser. Donc, si on se blesse lors des rapports sexuels, ça peut être des portes d'entrée pour des MST. Le mieux, c'est la tondeuse en étant précautionné, parce qu'il faut bien tendre la peau de la verge, bien tendre la peau du scrotum, parce que sinon la peau peut se prendre dans les mors de la tondeuse, ou sinon la crème dépilatoire. Mais là, attention aussi, il existe des brûlures, parfois jusqu'au deuxième degré, lorsqu'on laisse la crème trop longtemps, ça brûle. Donc, globalement, il faut plutôt utiliser la tondeuse. Et puis ça se prête pas et ça se désinfecte.
La tondeuse, on la prête
oui,
pas.
On la prête pas, pas, c'est la barbe, ça tondeuse. Et puis, ni dans un sens ni dans l'autre.
Et puis on met un petit coup de spray désinfectant.
Et ben, le risque, c'est évidemment, comme on n'a pas des biotypes bactériens identiques sur la peau du visage et sur le pubis.
Ah, on va s'infecter d'une zone à l'autre.
C'est d'échanger des bactéries.
Même,
Alors quand on se blesse, après on vit avec ses propres bactéries. Mais le tout, c'est que lorsqu'on prête sa tondeuse, c'est pas recommandé, mais il faut toujours la désinfecter. Ou après chaque utilisation, soyons carrés, on désinfecte sa tondeuse. Et c'est plus prudent.
Et du coup, est-ce qu'après l'épilation, que ce soit à la tondeuse ou même à la crème, il faut désinfecter la région, nettoyer avec un savon particulier? Est-ce qu'on a un risque? Parce que parfois, on a ces petits boutons qui... les patients ont ces petits boutons. ces petits boutons qui peuvent survenir. Est-ce qu'il y a des moyens
c'est
de les éviter?
C'est une émission masculine et comme par hasard, vous vous sentez visé par chaque question. Moi, j'y peux
mais
rien.
Non,
je me sens un peu seul aujourd'hui.
Il faut être prudent. C'est-à-dire que lorsqu'on a des boutons sur la zone, il vaut mieux désinfecter. Lorsqu'on n'a rien, qu'on ne s'est pas blessé, il n'y a pas lieu à se désinfecter.
Donc vous avez noté, Jimmy, il faut désinfecter si besoin. Alors, docteur Gallienne, on va faire une courte pause dans cet entretien. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour une émission donc Santé, Bien-être. Notre invité aujourd'hui, c'est vous, docteur Marc Galliano. Vous êtes andrologue et urologue à Paris et l'auteur du livre « Mon sexe et moi » chez Marabout. Alors, docteur Galliano, maintenant, on va passer à d'autres problèmes qui touchent l'appareil génital masculin, appareil génital qui sert aussi à uriner, forcément. C'est l'une de ses grandes fonctions. Alors, parlons-en. On va commencer par les basiques. Un homme, ça urine combien de fois par jour, en moyenne?
Grosso modo, une vessie, c'est à peu près 700 millilitres. On conseille de boire 1,5 litre. Normalement, on devrait faire pipi 3 à 4 fois par jour.
D'accord, ça c'est la moyenne.
Ça c'est la moyenne.
Il n'y a pas du tout de pipi ou s'il y en a trop, ça veut dire qu'il y a un souci, effectivement.
Il y a un souci, ou bien parce qu'on boit trop de café, trop de thé. Donc en fait, il faut quand même relativiser jusqu'à 4-5 fois par jour, c'est normal.
Au-delà, peut-être il faut consulter. Il se trouve que certains hommes ne font pas pipi droit, ils font pipi un peu de traviole, etc. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est grave, docteur? Je crois qu'il y a quand même peut-être il peut y avoir une malformation à l'intérieur.
Alors oui, si on parle de malformation de sténose de l'urètre, donc c'est des petites membranes qui...
L'urètre, rappelez-nous.
L'urètre, c'est le canal urinaire qui permet aux urines de s'évacuer de la vessie vers l'extérieur. Et de temps en temps, au cours de blessures mécaniques, on est tombé à califourchon sur le cadre de son vélo, on a fait une infection urinaire, une MST, on peut avoir des petites membranes qu'on appelle des sténoses. Et donc, dans ces cas-là, le
jet d'urine... Ça fait dévier le tuyau un petit peu.
Ça peut faire un pommeau d'arrosoir, on peut en mettre un peu partout.
Jimmy.
Du coup, ça veut dire que c'est parfois pas la faute de ces messieurs s'ils font pipi un peu partout. Mais est-ce que vous avez des conseils pour justement éviter qu'on fasse pipi à droite et à gauche? Et surtout, est-ce qu'on peut faire pipi en ayant une érection? Parce que parfois, certains se posent la question. Alors, je me pose pas la question,
mais si
est-ce qu'on peut uriner en ayant une érection?
Alors, lorsqu'on est en rut le matin, on peut faire pipi, mais il vaut mieux faire pipi sous la douche parce que sinon, on a tendance à avoir un jet d'urine qui part plutôt à la verticale. Mais c'est pas impossible d'uriner lorsqu'on a une érection. Maintenant, le vrai conseil, et là je vais me faire vraiment des amis auprès
du côté féminin,
il faut faire pipi assis. Si on veut pas avoir de problème, on fait pipi assis. Ah oui.
Pourquoi ils font pas tous pipi assis, tout simplement? On serait tranquille, nous. Hein. Allez, tous les hommes assis, s'il vous plaît, pour nous,
assis.
ça serait vraiment bénéfique, hein, parce qu'il y en a marre de s'asseoir sur les toilettes avec des gouttes de partout. Justement, question très pratique. En tant qu'urologue, quand on pisse pas droit, vous expliquez que ça peut être aussi à cause d'une infection, vous le disiez, une MST.
Exactement.
Et donc, quel type peut faire ce genre de choses?
Alors, en fait, les grandes MST qui donnent des petites membranes dans l'urètre, donc les fameuses sténoses, c'est les chlamydiés et les gonocoques. Dans ces cas-là, avant d'avoir la sténose, on a d'autres signes.
Hein,
donc, on a des écoulements, on a des brûlures en faisant
pipi. On en parlera à la fin de cette émission des MST. Jimmy.
Et puis, avec l'âge, le jet des hommes est un peu moins puissant. Comment ça s'explique?
Alors, ça s'explique parce qu'on a un organe qui est un peu mystérieux, parce qu'on a du mal à le localiser, c'est la prostate. La prostate, c'est un organe qui a une triple fonction. Elle a une fonction de fertilisation, qu'elle permet aux spermatozoïdes de devenir fertiles, actifs.
Donc elle sert à quelque chose.
Oui, elle sert à quelque chose.
Si on n'a pas au début, en tout cas...
C'est important. C'est un filtre à germes. C'est un peu comme une grosse amygdale. Hein, lorsque les germes remontent le canal urinaire, ils sont bloqués dans la prostate. Et enfin, la prostate, c'est une petite usine à fabriquer de la testostérone active.
Donc, elle est très utile quand même.
Elle est très utile. Elle n'est pas indispensable à la vie, mais elle est très utile. Lorsqu'on vieillit, la prostate a tendance à grossir, comme elle est à la sortie de la vessie.
Chez tous les hommes, hein, sans maladie, c'est pas une maladie, c'est le vieillissement naturel,
exactement.
Elle grossit. D'accord.
95% des hommes ont une prostate qui grossit, il n'y a que 5% de chanceux qui, eux, ont une prostate qui reste de la même taille. Il faut savoir qu'une prostate, au départ, ça fait 15 grammes.
C'est
à peu près la taille.
Taille
c'est une petite châtaigne. C'est la même forme qu'une châtaigne.
Ça, c'est au départ.
Et ça, ça fait 15 grammes et ça peut monter jusqu'à des prostates spectaculaires, jusqu'à 300, 400 grammes.
Et la taille de, du coup, on est passé d'une châtaigne à
un pamplemousse.
Ah oui, quand même.
Donc c'est quand même costaud.
Et c'est là que donc, des problèmes urinaires peuvent survenir. Quand elle est grosse, elle gêne quoi alors?
Exactement. En fait, elle gêne la sortie des urines au niveau de la vessie, au niveau du col de la vessie. Il faut savoir aussi qu'une prostate, même si elle n'est pas énorme, mais si elle est mal placée, ça peut entraîner des troubles. Alors,
mais pour des raisons, enfin, je veux dire, à la naissance congénitale, elle n'est pas toujours au même endroit,
en vieillissant, cette prostate, si elle grossit, au lieu de grossir en largeur, donc là, devenir volumineuse et large, elle peut grossir en hauteur. Et dans ces cas-là, les hommes, au lieu d'avoir des problèmes de G faible, peuvent avoir des envies pressantes d'aller faire pipi, des envies impérieuses de faire pipi. Dans ces cas-là, ce qu'on appelle un lobe médian, donc c'est un petit morceau d'adénome qui pousse dans la vessie.
Jimmy.
On parlait de poids de prostate, vous parliez de 15 grammes, 20 grammes, 30 grammes, mais du coup, comment est-ce que vous faites pour l'évaluer? Est-ce qu'on a forcément besoin d'une échographie ou simplement, avec votre doigt, vous pouvez l'estimer précisément? J'ai toujours été très étonné de la performance des urologues en me disant, bah voilà, ça c'est 35 grammes, tu verras, l'échographie c'est comme ça.
Ah ouais.
Et d'ailleurs, à partir de quand on doit peser sa prostate, d'ailleurs?
Alors, en effet, le doigt reste quand même un outil fiable. Elle méconnaît quand même toute une partie de la prostate, qui est la partie vers le haut, hein, qu'on appelle le lobe médian, ça on ne peut pas le toucher, mais on évalue plutôt la consistance, éventuellement la présence d'une tumeur ou pas, et le volume. Maintenant, l'examen quand même de référence, c'est l'échographie endorectale pour mesurer le volume de la prostate, et pour avoir une idée précise de la qualité des tissus, ça reste l'IRM de la prostate. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire son premier toucher rectal? L'Association française d'urologie recommande un dépistage individuel à partir de 55 ans avec un toucher rectal et un PSA.
Voilà, vous avez votre réponse, Jimmy. Vous avez encore un
petit
peu de
temps. Ou parfois un peu plus jeune quand on a une infection de la prostate à ce moment-là.
Alors, peut-être plus jeune aussi, mais quand on a des antécédents personnels de cancer du sein, familiaux de cancer du sein ou cancer de la prostate, il faut démarrer un peu plus tôt.
Docteur Galliano, vous avez dit donc que la prostate, elle grossit avec l'âge, que c'est tout à fait normal. Mais si cela devient problématique, je crois que vous préconisez dans votre livre de faire appel à la phytothérapie. Est-ce que c'est efficace et de quoi vous parlez précisément par là?
Alors, la phytothérapie, c'est, on va dire, c'est la première étape du traitement de l'adénome de prostate.
C'est soigné par les plantes, donc.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Il y a des plantes qui décongestionnent, qui ont fait
la preuve de leur efficacité. Ouais.
Ouais, tout à fait, comme le palmito, comme l'écorce d'un arbre africain. Donc, il y a des molécules de phytothérapie qui aident. Il faut savoir que c'est le premier palier. Ensuite, le deuxième palier, ce sont des médicaments qu'on appelle des alpha-bloquants. Ensuite, le troisième palier, ce sont des médicaments qui bloquent la synthèse de la testostérone dans la prostate, donc qui permet de diminuer le volume de la prostate. Et ensuite, on a tous les traitements chirurgicaux de la prostate qui vise à diminuer le volume de la prostate et donc à permettre aux patients de mieux uriner.
On fera peut-être une émission spéciale à l'adénome de la prostate une prochaine fois pour être un peu plus complet. Jimmy,
un lien qui paraît pas forcément évident que vous décrivez dans le livre, alors c'est grosse prostate et vapeur d'eau. Est-ce qu'en allant au hammam on pourrait un peu faire du bien à sa grosse prostate?
Alors c'est le hammam qui vient à vous. C'est qu'aujourd'hui on a une technologie qui permet de traiter l'adénome de prostate par la vapeur d'eau, donc on entraîne une diminution du volume de la glande, mais l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle permet de conserver les fonctions sexuelles de l'homme, et notamment l'éjaculation dans le bon sens.
C'est de la vapeur d'eau.
Exactement, c'est
d'accord.
De la vapeur d'eau qui permet de s'attaquer simplement au tissu prostatique autour de ce fameux urètre dont on a déjà parlé, et de créer donc une cavité qui permet à l'urine de circuler plus facilement.
D'accord, on fait ça chez le médecin ou...
On fait ça au bloc opératoire. C'est une technique chirurgicale qui a aujourd'hui 2 ans d'existence en France et qui permet donc de faire mieux que le médicament, mais évidemment moins bien que les techniques classiques comme aujourd'hui le laser.
2 ans d'existence, vous avez des patients qui en ont été contents, qui ont des résultats satisfaisants, vraiment?
Ouais. Aujourd'hui, les études, c'est 5 ans aux États-Unis. On est plutôt satisfait. On améliore la fonction urinaire des patients, alors qu'on conserve leur fonction sexuelle. Évidemment, c'est une technique qui est encore d'évaluation en France, mais qui donne en tout cas satisfaction aux patients.
Eh bien, on en apprend dans cette émission, le bain de vapeur pour soigner, en tout cas améliorer l'adénome de la prostate. Merci docteur Galliano.
Merci.
On va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Marc Galliano. Vous êtes andrologue et urologue à Paris, l'auteur du livre également Mon sexe et moi chez Marabout, coécrit avec Rika Etienne. Alors passons à d'autres désagréments qui peuvent toucher l'appareil génital masculin, le pénis, au gré des rencontres, je dirais, les fameuses IST, les infections sexuellement transmissibles. Est-ce que vraiment ce type de consultation avec ce motif-là, c'est quelque chose de très fréquent? Est-ce que c'est en augmentation même peut-être ces dernières années?
Alors, c'est oui, en effet, c'est relativement fréquent. Après, bien souvent, des brûlures en urinant ou des douleurs testiculaires, c'est pas souvent, c'est pas toujours une infection, mais bien souvent, il y en a. Non, la recrudescence aujourd'hui des infections, celle-là, c'est plus des infections, c'est des maladies sexuellement transmissibles. Syphilis, chlamydia, gonocoque, augmente parce que on a un petit peu relâché la pression sur la prévention vis-à-vis du VIH, la PrEP aujourd'hui, donc la préparation,
le traitement préventif
du VIH aujourd'hui permet d'avoir une vie sexuelle plus libre et se sont relâchés sur le préservatif. Et donc on remarque une augmentation des MST.
Et alors ces MST, IST, ce sont quoi? C'est dû le plus souvent à des bactéries, à des virus? Il y a un peu des deux, je crois.
Alors, bien souvent, ce sont des bactéries, hein, chlamydia, gonocoque, syphilis, ce sont des bactéries, et les virus, c'est HPV essentiellement, hépatite.
Une interrogation qui revient souvent en consultation, les patients demandent si une prostatite, une infection de la prostate, est forcément contagieuse. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une infection sexuellement transmissible et une simple prostatite qui pourrait être liée à une hygiène de vie ou une prostate un peu trop grosse? Parce que souvent, c'est la crainte dans les couples, est-ce qu'il m'a trompé en ayant sa prostatite? Et parfois, on a la même question vis-à-vis des femmes, est-ce que la cystite est contagieuse?
Alors, tout ce qui est IST, donc ce sont infections sexuellement transmissibles, on vit avec des germes. Donc sur le périnée, on a des milliards de bactéries.
On a beau se laver tous les jours, il y en a.
Voilà, mais c'est normal, il faut d'abord pas trop non plus se laver parce que c'est le biotope bactérien, donc c'est un environnement qui est plutôt sain. Mais par exemple, quand on a un germe comme un Escherichia coli, très connu dans les cystites, il n'y a pas de transmission directe, donc il n'y a pas de, on va dire, de risque. On n'a pas peur lorsque son épouse, sa compagne a une cystite à Escherichia coli, on ne va pas forcément avoir un Escherichia coli dans l'urètre et dans la prostate. Par contre, lorsqu'on a une MST, gonocoque, chlamydia, syphilis, c'est sexuellement transmissible. Donc tout rapport sexuel non protégé va forcément contaminer le partenaire ou la partenaire.
On ne l'attrape pas sur les toilettes, parce que souvent, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a un risque dans les toilettes publiques d'attraper?
Non, sur les toilettes, il faudrait que quelqu'un ait mis du pu. Parce que
faut être très loin.
Et ensuite derrière, vous vous asseyez sur le pu.
Ouais, frotter ses organes génitaux dessus. Il faut
rapport sexuel dans les toilettes. Là.
D'accord. Ouais. Ok. Il y en a une très ancienne qui s'appelle la chaude pisse. Alors celle-là, est-ce que ça existe toujours? Comment on attrape ça? Comment on sait qu'on a ça? Enfin, vu le nom chaude pisse, je pense qu'on doit le sentir. Non?
Alors on l'imagine. Ouais. Oui, c'est ça. La chaude pisse, c'est le gonocoque. En fait, ces fameuses lames de rasoir. Hein, la bactérie qui est dans l'urètre entraîne une inflammation. Comme les urines sont acides, vous avez le sentiment d'uriner des lames de rasoir.
Donc pas possible de passer à côté normalement?
Non, sinon il faut vraiment être très résistant à la douleur.
Jimmy.
On continue le festival avec le chlamydia. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on s'en aperçoit? Est-ce que parfois ça peut passer inaperçu?
Malheureusement oui, surtout chez les femmes. Donc c'est quand même une cause importante de stérilité féminine. Chez les garçons, bien souvent on a un écoulement. Alors c'est un écoulement qui est plutôt clair, alors que le gonocoque il est plutôt jaunâtre. Il n'y a pas forcément d'odeur nauséabonde.
Et les garçons voient la différence, c'est pas un truc habituel.
Quand on a une tache dans le caleçon,
c'est pas normal.
C'est pas normal. Donc ça c'est quand même un signe très important, et donc il faut absolument passer voir un médecin.
Et ça soigne bien.
Et ça soigne bien aux antibiotiques, mais attention aujourd'hui, comme on a de plus en plus de chlamydia, pour l'instant il n'y a pas de résistance. Mais il faut raison garder sur les antibiotiques.
Et vous dites que c'est une cause de stérilité chez la femme. Ça veut dire que si jamais vous avez un chlamydia chez l'homme, il faut ne pas oublier de traiter le ou les partenaires. Il faut les inciter à se faire traiter et prendre des antibiotiques pour éviter dans 20 ans de se rendre compte qu'il y a une stérilité.
Exactement.
Une autre maladie qu'on croyait disparue, la syphilis, c'est vrai vous en avez déjà un petit peu parlé, elle était en recrudescence depuis quelques années. Ça ressemble à quoi, en tout cas chez un homme, puisque c'est de l'appareil génital masculin qu'on parle aujourd'hui? Comment on peut se rendre compte qu'on a la syphilis?
Eh bien, c'est là où c'est compliqué, ça commence toujours par un petit bouton. Et ce bouton, il y aura
sur le pénis.
Exactement. D'accord. Donc on appelle ça un chancre, mais des fois on fait pas attention, ou il est mal placé parce qu'il est entre la verge et le scrotum, il n'est pas forcément que sur le gland, et puis ça disparaît.
Ça fait pas mal, pas trop mal.
Pas forcément très mal. Et ensuite, on commence à avoir ce qu'on appelle une roséole. Donc,
sur tout le corps.
Tout le corps, on peut avoir des petits boutons. Alors là, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, si on néglige, c'est la syphilis peut après devenir neurologique. Hein, et alors après, dans ces cas-là, ça peut même entraîner des complications graves. Mmh. Voilà.
Donc, dès le petit bouton, vaut mieux consulter quand même.
Dès le petit bouton sur la verge, ouais. Exactement. Ouais. Il vaut mieux consulter son médecin traitant, voir un urologue ou éventuellement un dermatologue, un dermatovénérologue. Et puis, bien sûr, lorsqu'on est diagnostiqué syphilis, il faut traiter et diagnostiquer tout l'entourage et tous les partenaires.
Bon, docteur Gagné, nous, on pourrait parler des MST, des IST pendant des heures, il y a tellement à dire, et puis on voit que c'est en recrudescence ces dernières années. Mais il y a un moyen génial qu'on a un peu oublié ces dernières années, qu'on a tendance à négliger, c'est le préservatif. Très utile pour éviter tout ce dont on vient de parler. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner sur la bonne utilisation du préservatif? Ça fait toujours du bien de le rappeler.
Alors oui, tout à fait. Le préservatif, c'est très important. C'est la meilleure méthode pour prévenir des infections sexuellement transmissibles et puis des naissances non désirées. Alors le préservatif, c'est très important. D'abord, c'est un objet qui est fragile, donc il y a une date de péremption. Hein, c'est pas pour rien. Un préservatif, lorsqu'il est trop vieux, il va devenir poreux. Ah, il peut déchirer.
Même si c'est pas quelque chose qui se mange, a priori.
Exactement.
Il y a une date de péremption, elle sert à quelque chose.
Et ça sert. Donc il faut d'abord regarder la date de péremption. Ensuite, attention aux gaillards qui pourraient prendre des préservatifs trop grands. Et ben, lorsqu'on fait l'amour avec un préservatif trop grand, ben, on le perd. Donc il n'y a plus aucun intérêt. Et s'il est trop petit, ça fait mal. Ça
sert trop. Il peut éclater aussi, non ?
Il peut éclater, ouais. On peut se blesser, donc aucun intérêt. Il faut donc essayer les préservatifs. Après, il y a la technique de pose. On prend le préservatif par le petit bout qui est le réservoir et on le déroule tout doucement. S'il ne se déroule pas, c'est qu'on l'a mis à l'envers.
Ah, oui, d'accord.
Voilà, dans ces cas-là, ça se déroule tout seul.
Jimmy.
Un ami m'a demandé de poser cette question. Il existe des modèles.
Il m'a demandé, bien sûr.
Des modèles perlés, texturés, nervurés. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'il y a une vraie différence avec ça?
Ou est-ce que c'est pas un peu marketing tout ça?
Alors, je vous invite à les essayer. déjà.
Dites-le à votre ami.
Hein, non,
déjà, pour les essayer, il faut avoir un petit retour d'information. Oui, en effet, il peut y avoir des sensations plus ou moins intéressantes pour la partenaire ou le partenaire. Les histoires de préservatifs retardants, ça existe, parce que de temps en temps, ils sont un petit peu enduits à l'intérieur d'anesthésiens. Donc oui, pourquoi pas essayer. Ils ont des préservatifs avec des parfums. Mais n'oubliez pas de lubrifier vos préservatifs.
Dernière chose, dernière toute petite question. Je sais que vous conseillez aux hommes d'aller uriner directement après le rapport sexuel. Je savais qu'on le conseillait pour les femmes, pour éviter les infections urinaires. Mais pour les hommes aussi, c'est important après le rapport sexuel.
C'est très important, même si le canal urinaire, l'urètre, est beaucoup plus long chez l'homme que chez la femme. Les bactéries qui pourraient être au début du canal, qu'on appelle le méa, pourraient remonter pendant la nuit éventuellement ou dans la journée et aller se loger dans la prostate. Donc autant éviter l'urétrite, donc l'inflammation de l'urètre, autant éviter la prostatite en faisant un bon pipi après chaque rapport sexuel.
Merci beaucoup Dr Galliano d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur toutes ces interrogations qu'on peut avoir sur le pénis et dont on n'ose pas toujours parler. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, donc je rappelle le titre de votre livre, Mon sexe et moi, coécrit avec Rika Etienne, aux éditions Marabout. Merci encore.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed qui ne raterait de toute façon cette chronique pour rien au monde.
Jamais, oui.
Voilà,
c'est la chronique préférée mais de tous les auditeurs et aussi de la régie d'Europe 1.
Ouais, c'est ça. Alors donc, pour cette dernière chronique très très appréciée, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Aujourd'hui Catherine, on a une question de Bastien, je vous la lis. Ma copine s'est plainte que je ne dors jamais tout nu, toujours en sous-vêtements, ce qui a l'air de l'agacer. J'ai essayé une fois, mais je trouve cela très inconfortable. Pourquoi? Est-ce que c'est une question d'habitude? Alors Catherine, pourquoi la copine de Bastien souhaite absolument d'ailleurs qu'il dorme tout nu, chacun dort comme il veut, non?
Oui, bien sûr que chacun dort comme il veut, c'est évident. Ceci étant, je crois que ce qu'elle observe, c'est qu'elle peut être nu quand ils font l'amour, quand ils se câlinent, et puis tout d'un coup, il s'habille avant de s'endormir, comme s'il était dans une absence de sécurité à ce moment-là, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qui fait que l'on se rhabille? Et notamment, généralement, on rhabille la partie sexuel. Alors, il y a ceux qui rhabillent que le haut. Hein,
un peu comme hier avec la douche. Hein, celui qui partait, celui qui câline, celui qui s'endort, celui qui s'enfuit.
C'est ça. Donc, c'est effectivement toujours une question de confiance. C'est-à-dire que comment se fait-il que tout d'un coup, alors que nous allons nous endormir, tout d'un coup, tu es sous tes gardes, puisque tu protèges ta zone sexuelle, comme si tu avais peur que je te saute dessus. Alors que la réalité, c'est pas nécessairement que l'autre représente un danger, mais que dans la nuit, au moment où on s'abandonne, un extérieur pourrait venir, un extérieur pourrait être dangereux, ou on pourrait avoir une vue sur le sexe qui ne serait pas contrôlée par soi. C'est une chose de l'exposer, son sexe, c'est une autre chose que d'être vu à son insu.
Jimmy.
Et puis il y a un côté pratique, peut-être à rester habillé. Moi j'ai 3 enfants qui se réveillent dans la nuit, chacun leur tour. Si je me lève le zizi à l'air, je ne serais pas très confortable en fait, hein, pour m'occuper de mes enfants, c'est un peu bizarre. Donc il faut peut-être aussi voir en fonction du contexte. On ne peut pas tous se permettre de vivre cette liberté, en tout cas...
Bien sûr.
D'être tout nu.
Bien sûr, effectivement, on sait très bien ce que nos nuits représentent pour les uns et les autres. Effectivement, on peut être dérangé. Les enfants peuvent venir, peuvent être exposés à des choses qu'on n'a pas envie de partager avec eux, et on a plutôt raison. Ceci étant, ils ne sont pas censés non plus venir de façon intempestive dans la chambre. Et donc, effectivement, on aménage sa vie, on s'organise, et du coup, on prend l'habitude d'être couvert. Et prenant cette habitude, c'est vrai qu'il y a une question d'habitude, on finit par se trouver très fragilisé dès lors que l'on est découvert. Maintenant, il y a des gens qui ne cachent pas leur sexe, hein, qui couvrent le haut de leur corps tout en restant très tranquillement le zizi à l'air, comme vous disiez, mais qui ont besoin d'être protégés pour ne pas avoir froid parce qu'ils se découvrent la nuit et que le haut du corps se découvrant régulièrement sans le vouloir, eh bien, ils ont besoin d'être en sécurité au niveau du haut de leur corps.
Puis il y a ceux qui aiment avoir le drap dessus, ceux qui dorment au-dessus du drap aussi. Moi, c'est vrai que j'aime toujours être couverte par le drap. C'est une habitude aussi depuis toute petite. Il y a une sécurité d'avoir quelque chose sur soi. Et pourquoi sa compagne, donc, on n'a pas le prénom de la compagne de Bastien, mais pourquoi sa compagne, elle tient absolument à ce qu'il soit nu?
C'est une façon de pouvoir se dire qu'il y a une intimité partagée, que ce sont deux corps nus qui sont ensemble, ce qu'on ne ferait pas en dormant avec quelqu'un d'autre avec qui on ne couche pas. Parce que si vous devez dormir avec une amie...
Dans la soirée pyjama, on est en pyjama.
On est en pyjama, c'est-à-dire qu'on ne partage pas cette nudité. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui lui est ravi et elle voudrait pouvoir le vivre, même si ce n'est pas pour le consommer, juste pour vivre ce moment d'intimité des corps qui peuvent se retrouver dans la nuit, se serrer et se sentir dans un pot à pot, ce qui est quand même fondamentalement notre élan animal, même si après, culturellement, nous pouvons avoir des inhibitions et des craintes de ce côté-là.
Jimmy ?
Et puis bon, le corps d'une femme ne change pas tellement, mais celui d'un homme, lorsqu'il n'est plus en érection, un zizi comme ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en plus que ce soit moche.
C'est une idée reçue. Ça, c'est votre idée d'homme qui avait besoin de vous montrer toujours magnifique, toujours tendu, dressé. Ouais. Voilà,
un peu qu'il fasse froid dans la pièce, je peux vous assurer qu'on n'est pas forcément dans un moment de gloire.
Mais le truc, c'est que les femmes n'aiment pas un pénis.
C'est vachement superficiel, finalement, ces hommes. Hein.
Bah, c'est surtout qu'ils pensent qu'on ne les aime que pour leur grande splendeur. Une femme a aussi du plaisir à voir un homme dans cette intimité qu'est sa perte d'érection et son pénis tout petit, parce que justement, c'est magique, il est tout petit, il va devenir grand. Elle pourrait même participer de le faire devenir grand. Donc pour une femme, ça n'est pas du tout catastrophique. Voir ses testicules pendouillantes, reposer l'une sur l'autre, ce pénis qui est flasque, c'est la même chose pour les femmes. Est-ce qu'une femme doit se tenir droite comme ça pour que ses seins soient bien dressés?
Quand on dort,
est-ce que...
c'est difficile.
Voilà, ben y a un sein qui vient s'appesantir sur l'autre. Et ça, c'est extrêmement touchant aussi. Et c'est vrai pour des fesses, c'est vrai pour des muscles. Cet abandon qu'il y a du corps et cette participation, enfin en tout cas, l'offrir au regard de l'autre que nous aimons, c'est extrêmement touchant. Alors évidemment, on veut se montrer toujours magnifique, pourquoi pas toujours maquillée pour les femmes, ben, voir justement ces moments d'abandon, ces moments de mine malade, ces moments de détente, ça fait partie de la relation et c'est plutôt ce qui fait la beauté des relations, de pouvoir se faire confiance dans ce cadre-là.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. Tout de suite place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire tous les jours sans se la raconter et je vous dis à lundi.